France Culture.
You have a date, my beloved, July the 1st at 5 o'clock.
Bonjour le Book Club et bonjour Jean-Pierre Montal. J'ai été particulièrement touchée par cette histoire d'amour entre les deux protagonistes, mais encore plus par le côté cinématographique de l'histoire.
But you don't say where.
Well, you name the place and I'll obey.
How about the top of the Empire State Building?
Oh, yes, that's perfect. It's the nearest thing to heaven we have in New York.
Par ce traitement des détails et de l'intrigue de cette histoire d'amour.
Darling, if things don't work out...
Don't talk like that, I'm not listening.
But just in case one of
we'll
us is...
We'll both be there. Hold the thought.
Hold the thought.
France Culture.
Take care.
Take care.
Le Book Club. Mathilde Wagman.
Un film au cœur d'un livre, au cœur de votre book club aujourd'hui. C'est en sortant d'une projection d'Elle et lui de Léo McCarey que les deux protagonistes du roman dont nous parlons se rencontrent. Et comme dans le chef-d'œuvre hollywoodien, ces deux-là vont s'aimer et se manquer. Des regrets, des déceptions, des chemins qui ne prennent pas celui espéré et cet espoir irréaliste que la vie finira par s'assembler autrement malgré tout. Un roman qui, par un vertigineux jeu de miroirs et de récits emboîtés, nous entraînera des rues du quartier latin aujourd'hui à celles de la Vienne des années 70, d'une narration à la première personne à la troisième, du point de vue d'un personnage à l'autre, d'une passion à la suivante. La face nord est le titre de ce roman. Jean-Pierre Montal, son auteur, est notre invité. À 15h50, comme chaque jeudi, nous prendrons des nouvelles du livre hors de nos frontières, grâce au réseau des correspondants de Radio France à l'étranger. Aujourd'hui, Côme Bastin, en direct depuis l'Inde, nous parlera d'un recueil de nouvelles qui se fait l'écho de la situation au Cachemire, dans le nord du pays. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouerons à trouver de la musique dans un livre pour mieux nous quitter en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club et bienvenue à vous Jean-Pierre Montal, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre La Face Nord. Il a paru à l'automne dernier aux éditions Séguier et vous a valu de recevoir le prix des deux magots. On est ravis de vous recevoir pour en parler. C'est votre cinquième roman et je précise que vous êtes aussi éditeur. Vous avez cofondé les éditions Ruff Romantin. Et l'on vous doit également, entre autres, et je dois dire que notre reconnaissance est immense, la très belle édition en français de la magistrale biographie en trois volumes de Kafka, signée par l'allemand Rainer Starr pour les éditions du Cherche Midi. On va tout à l'heure plonger dans la matière de ce livre, de ce roman qui nous vaut le plaisir de vous recevoir, mais on a coutume ici au Book Club de commencer toujours nos conversations par un petit portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage vous avez appris à lire, Jean-Pierre Montal?
Appris à lire... En revanche, je me souviens très bien de la maîtresse d'école de l'institutrice. Je me souviens de son nom, Madame Tardy, voilà, qui, à un moment, nous apprenait à lire. Et à un moment, je me souviens très bien d'une sensation étrange. J'aurais du mal à la définir, mais en tout cas, j'ai vu que ça démarrait, quoi, que je commençais à pouvoir lire plusieurs phrases, enfin voilà, que les choses s'enchaînaient. Donc, si je devais décrire le lieu, ce serait vraiment une salle de classe et le moment où voilà, j'ai pu comme ça enchaîner. Je me souviens assez de cette impression, en tout cas.
C'est difficile à décrire, mais quand même, si on essaye de détailler un tout petit peu l'étrangeté de cette impression-là.
Ben vous avez l'impression... Alors moi, curieusement, après, bon, on va peut-être en parler, mais moi, j'ai été un lecteur assez tardif. Hein. Je me suis mis à lire de la littérature assez tardivement. Mais je me souviens très bien, après ce moment, si vous voulez, après ce moment et ce cours avec cet instit, c'est de rentrer chez moi et de me jeter sur une bande dessinée et là, de pouvoir me lancer, si vous voulez. Il y avait une impression... ben voilà, c'est parti, quoi.
Vous dites lecteur assez tardif. Alors, à quel moment est-ce que ça s'est joué, la découverte du plaisir de la lecture? Mais quand même, bande dessinée, est-ce qu'il y a eu quand même des petits plaisirs de...
Oui, oui, beaucoup. Non, moi, j'étais un gros lecteur, mais de littérature, si vous voulez. Il y a des gens qui pourraient vous dire, ah, quand j'ai lu Dickens à 14 ans, alors moi, pas du tout.
Ouais.
Alors là, vraiment, je suis
mais
passé...
on est un certain nombre, je crois, pas...
oui,
on est passé par là.
Oui, oui. Non, moi, je lisais pas mal de bandes dessinées quand j'étais petit. Moi, je dois reconnaître que... Enfin, je citerai toute ma vie Goscinny comme une influence, quoi, vraiment, cette façon d'amener les histoires. Et puis après, moi, j'ai lu énormément de presse. Quoi. J'étais complètement fasciné par la presse, notamment, et presque essentiellement par la presse musicale. Donc, j'ai été happé par le rock, voilà, très, très, très tôt, bizarrement. J'étais pas dans une famille qui écoutait de la musique, ni dans une famille qui lisait particulièrement. Il y avait de la musique, il y avait des livres, mais enfin, c'était pas une passion familiale. Et alors, il a suffi que j'entende deux, trois chansons et j'ai été pris par une évidence qui était que cette musique allait être très importante, voire toute ma vie. Quoi.
Oui, donc, je ne l'ai pas précisé, mais elle, c'est aussi l'un des aspects de votre parcours. Vous avez aussi oui. Voilà, eu un groupe de musique, donc fait, ça fait partie aussi de votre pratique.
Exactement, oui, j'ai un groupe, là, les Mercuriales, et donc on joue, et c'est vrai que ça ne m'a jamais quitté. J'ai eu des périodes sans groupe, des périodes, mais en tout cas, la musique a toujours été là. Et la musique est très liée pour moi au début de la lecture, c'est-à-dire que je lisais des notes de pochette de disques, et ensuite j'ai lu la presse musicale. Mais quand je dis lu la presse musicale, c'est, je cherchais tout, j'achetais tout, et je lisais de la une à la der, quoi, vraiment.
Ouais, mais il y a un plaisir d'érudition, de recherche de connaissances autour de cet univers-là.
Et c'est vrai qu'il y avait une presse musicale qui existe sans doute toujours, peut-être que je suis moins dedans et que après j'ai lu d'autres choses quand même, mais il y avait une presse musicale avec de grands stylistes, des journalistes qui avaient des plumes. Je veux dire, quand vous découvriez les articles complètement irréels d'Yves Adrien dans Rock et Folk, c'était vraiment un monde qui s'ouvrait sous vos pieds et devant vous. Et moi, par exemple, je trouve qu'on ne parle jamais assez des qualités stylistiques, vraiment, des articles de Philippe Manœuvre à la fin des années 70, qui sont un mélange de Jules Vallès pour La Rage et de Stendhal pour Le Naturel, quoi. Mais tout ça en parlant de rock. Alors évidemment, ça fait moins sérieux, mais c'était quand même de l'écriture.
Et de cette écriture-là à la découverte ou l'appréciation de ce qu'on appelle une littérature plus traditionnelle, disons, ça se joue comment ?
Alors un jour, j'ai eu deux passages. Un jour, j'ai lu Le Bachelier de Jules Vallès, que je viens de citer d'ailleurs, bizarrement. Et en fait, quelque chose m'a surpris dans Le Bachelier de Jules Vallès, c'est-à-dire que je le lisais pour l'école, hein, oui, et je me suis dit, bon, ben, une lecture obligatoire. Et j'ai été très surpris de découvrir que ces mots-là étaient les miens, en fait. C'est un style très, très simple, très pur, ça parle de la rage adolescente. Enfin,
ça raconte quoi, moi j'ai pas lu Le Bachelier de Jules Vallès.
Il est bachelier, il pense que les diplômes vont l'amener quelque part, et en fait, il voit bien que de par ses origines sociales, il va stagner, et donc il voit bien qu'il y a des choses qui ne bougeront jamais socialement. C'est un livre de rage, vraiment, qui m'avait beaucoup marqué. Mais j'avais pas enchaîné, vous voyez, comme c'est. Moi, je préférais relire pour la troisième fois la biographie de Lou Reed, par exemple, donc j'avais pas enchaîné. Mais alors vraiment, ce qui a tout déclenché, c'est L'éducation sentimentale de Flaubert. Je l'ai lu, je me souviens être au milieu, et alors ça, je m'en souviens très nettement, avoir pensé, ah oui, c'est donc pour ça qu'on parle tout le temps de la littérature avec des grands mots et tout ça. Je comprends, quoi. C'est quelque chose d'important. Je comprends pourquoi certaines personnes en parlent tout le temps.
Et vous sauriez dire, détailler ce qui,
oui,
voilà,
c'est
ce
la
qui
justesse.
Émeut là-dedans.
Ouais. C'est la justesse, c'est la précision. On a vécu ça, ce type a vécu un siècle avant vous, et vous retrouvez les mêmes sensations. Et puis c'était ce que moi j'essaye aussi de trouver, puis que tous les auteurs, je pense pas que... C'est cette sensation, vous savez, vous lisez quelque chose et vous dites, c'est exactement comme ça que je voudrais l'exprimer, quoi. Ça tombe sous le sens. Flaubert, moi, ça a été une première révélation. Et après Flaubert, alors là, j'ai lu. Voilà, j'ai commencé à lire.
Alors, et alors, là, vous avez cité surtout c'est un hasard sans doute, mais deux auteurs français. Mmh. Est-ce qu'il y a eu ensuite une galaxie plus ouverte sur le monde qui s'est dessinée ou
oui, en plus, moi, je ne marche que par obsession, c'est-à-dire que j'adore être pris dans quelque chose. Donc, effectivement, Flaubert, j'ai été pris par le 19e siècle français, mais ensuite par le 19e siècle en général. Alors, c'est là où, effectivement, j'ai une grande passion pour les auteurs russes et une grande passion pour Tolstoï. Et puis pour Tchekhov, quoi, que je considère encore comme une sorte de modèle, voilà. Et puis alors j'ai oublié dans le français Stendhal, quand j'ai découvert Le Rouge et le Noir et La Chartreuse. J'ai adoré lire sur Stendhal aussi, l'espèce de désinvolture stendhalienne vis-à-vis de la littérature. Je trouvais ça très très déculpabilisant quelque part, voilà. Et puis donc il y avait les Russes, et puis alors la littérature américaine. Alors là, ça a été que j'ai découvert bizarrement avec deux auteurs qui ont des points communs dans leur vie et pas tellement de points communs stylistiques, mais qui m'ont emballé tous les deux, c'est Scott Fitzgerald et John Fante. Voilà, que j'ai lu passionnément. Alors, l'un vous amène à Hemingway, l'autre vous amène à lire sur Hollywood, Nathaniel West. Enfin, bon, voilà, là, ce que j'aime dans ces... Moi, je suis un pur autodidacte. Hein, mon unique diplôme, c'est le bac. Et donc, ce qu'il y a de fantastique là-dedans, je trouve, c'est de tirer les fils petit à petit. Et puis, ça vous emmène, vous savez plus... plus vraiment où, mais en tout cas, ça vous suivez un fil.
Bah c'est, l'histoire du fil qu'on tire, c'est une question que je voulais vous poser. On l'a compris dans la petite présentation que j'ai faite tout à l'heure, je crois. Il y a au cœur de ce livre qui va nous occuper, La Face Nord, quelque chose comme la passion cinéphile, une passion pour un film en particulier. On devine, on imagine que vous êtes cinéphile. Jean-Pierre Montal, vous nous avez parlé de votre découverte de la lecture à travers la passion pour la musique et des articles de musique. Est-ce que ça circule aussi entre aujourd'hui, dans votre vie actuelle, entre la cinéphilie et le goût de la lecture? Je cherche le mot qui dirait équivalent de cinéphilie pour dire goût de la lecture, mais je ne sais pas
s'il
existe.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais la cinéphilie, c'est une drôle de maladie, oui. C'est vrai. Donc, elle a son nom, elle a le droit à son nom. Oui, moi, ça circule en permanence. D'ailleurs, si je devais dire la première fois, si vous voulez, qu'une fiction m'a marqué et que je me suis dit, j'aimerais faire ça. Oui, et ben c'est vraiment, je ne lisais pas encore énormément, je devais avoir 15 ou 16 ans, et j'ai vu Annie Hall, de Woody Allen, qui est un film adulte pourtant, vous voyez, c'est pas à 15 à 16 ans, que, bon, mais il s'est pas, la liberté de ton, le changement de registre, sans doute la moitié des blagues que je comprenais pas, mais celles que je comprenais m'allaient très bien, et je me suis dit, je me souviens très bien avoir regardé ce film et me dire, ah oui, ça, c'est comme ça raconter une histoire, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, et j'aimerais faire ça avant même de lire. Donc moi, ça communique beaucoup, et particulièrement dans un autre sens, c'est que j'aime les films romanesques. Je trouve que le romanesque cinéma, c'est imbattable. Il y a peu de cinéastes, qui savent être purement romanesques. On peut faire des grandes aventures au cinéma, mais le roman, c'est autre chose. Marier la psychologie du personnage avec l'action, enfin. Et voilà, il y a un souffle romanesque que j'essaie souvent de trouver au cinéma, et qui est un peu difficile à trouver, mais il y a eu pour moi, des grands romanciers du cinéma, quelque part, et ça existe.
Et par exemple, vous pensez à qui?
Je dirais que Truffaut, c'était un romancier, en fait, au fond.
Quand vous dites « je vois Annie Hall » et je me dis « j'aimerais faire ça », à ce moment-là, malgré le fait que cette espèce de révélation, elle passe par un film, vous vous dites « j'aimerais écrire des livres qui ont quelque chose du film que je suis en train de voir » ou vous pensez aussi à un moment peut-être, pourquoi pas, en passer par la réalisation de films?
Vous dire, comme j'étais naïf, je pensais à rien du tout. C'est-à-dire que je me disais, j'aimerais raconter des histoires, enfin, j'aimerais faire ça, j'aimerais trouver des personnages et créer des situations. La fin d'Annie Hall reste pour moi une sorte de perfection qui peut être une fin de roman, qui peut être une fin de, voilà, quand ils se retrouvent, ils déjeunent ensemble alors qu'ils sont séparés, on sent toute la mélancolie et le temps qui a passé. Bon, c'est fantastique. C'est un peu Stendhal, un peu Proust, matinée de New York, de Philip Roth légèrement et d'un peu d'Isaac Singer. Oui, c'est la peste. Voilà.
Ça circule. Dans le livre dont on va parler, il y a un moment, une citation de La maman et la putain. Je cite, ouvrez les guillemets. Ça sert à ça un film à apprendre à faire un lit. Et il y a dans le livre, comme une discussion autour de cette idée-là, pour la résumer très, brutalement, qui serait « les films, ça apprend à vivre ». Est-ce que vous diriez, vous, dans votre vie, encore aujourd'hui, les livres, ça apprend à vivre ou pas du tout?
Je suis très embêté pour vous répondre, parce que mon premier élan, c'est de dire oui. Mais après, je me méfie énormément, et vous savez, vous devez être bien placé pour rencontrer beaucoup de gens qui disent « et ce livre a changé ma vie ». Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire ça réellement. Oui. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire qu'un livre a marqué, qu'un livre a changé votre vision peut-être de la littérature. Est-ce qu'il change votre vie? Est-ce qu'il change la façon dont vous appréhendez les gens?
Apprendre à vivre, hein, moi j'ai dit.
Apprendre
pas changer la vie.
D'accord.
Apprendre à vivre.
Alors, apprendre
est-ce qu'on apprend à vivre en lisant un roman?
Oui, moi,
de même que peut-être en voyant un film.
Oui, je pense que oui, mais ça n'empêche pas que quand le coup est porté dans la vraie vie, il fait quand même mal. On n'apprend pas en avance. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'avec la littérature, on découvre des choses qui sont dites en disant ah oui, ça, c'est exactement ce que je pense et ce que j'ai vécu. J'avais un ami, moi j'ai beaucoup aimé la romancière anglaise George Eliot. Et j'avais un ami, je lui disais un jour que je venais de découvrir George Eliot sur le tard, et je lui avais dit on devrait faire lire George Eliot à tous les hommes de 18-20 ans, comme ça, ils seraient prêts à affronter les problèmes amoureux. Et il m'avait dit, je l'ai lu à 14 ans et ça ne m'a pas empêché de souffrir. Donc voilà. Mais on y retrouve des explications, on y retrouve une façon de le formuler.
Une reconnaissance,
voilà,
en quelque sorte.
Exactement.
On va aller vers ce livre, votre livre, Jean-Pierre Montal, La Face Nord. Au cœur de ce roman, il y a donc le film de Léo Macaret, Elle et lui, l'un des rares exemples de films de l'histoire du cinéma à avoir été en quelque sorte réalisé deux fois. Une première version en 1939 avec Charles Boyer et Irène Dunne. Une seconde en 1957 avec Cary Grant et Deborah Kerr. On ne résiste pas pour nous nous conduire vers ce roman, au plaisir d'écouter Deborah Kerr qui joue un personnage qui est aussi une chanteuse. Elle interprète dans le film Love Affair, dans le film de 57 donc.
Thank you, ladies and gentlemen. As you know, this is my last night, so I would love to sing a song for you that is very close to my heart. Our love affair is a wondrous thing that we'll rejoice in remembering.
Le Book Club, Mathilde Wagman.
Un homme rencontre une femme. Autour de leur passion commune pour les deux versions du film de Léo Maccarré, elle et lui, Pierre et Florence, conversent, s'embrassent, s'aiment, se ratent, se manquent, comme dans le film, comme Charles Boyer et Irene Dunne, comme Cary Grant et Deborah Kerr dans le chef-d'œuvre hollywoodien. Car Florence, 72 ans, pense qu'il n'est pas raisonnable de vivre cette histoire avec Pierre, 48 ans. Elle aussi a vécu autrefois une histoire d'amour manquée. Cela se passait dans les années 70, c'était à Vienne, et jeune étudiante, elle avait fait la connaissance d'un écrivain, Egon Dartman, dont la vie la passionna. Un film, ça sert à comprendre ce que l'on ne peut pas saisir sur le moment, parce que la vie fonctionne ainsi, au rythme d'un décalage horaire perpétuel, le temps de la compréhension et celui de l'action ne coïncident jamais. C'est ce qu'écrit Florence dans un livre au creux duquel elle a consigné cette histoire, livre que découvrira Pierre, par hasard, des années plus tard. Un livre dans le livre et une gamme d'histoires en miroir l'une de l'autre dans un jeu de résonance qui est la forme romanesque que vous avez inventée, Jean-Pierre Montal, pour dire ce décalage horaire, cette non-coïncidence entre le temps de la compréhension ou des sentiments et celui de l'action, du réel, de la vie, peu importe comment on les nomme. La face nord, c'est donc le titre de ce roman. Il a paru aux éditions Séguier et on vous retrouve pour en parler, Jean-Pierre Montal. Lorsqu'on ouvre ce livre, on commence par lire en exergue cette citation de Hitchcock dans les fameux entretiens avec François Truffaut. Un scénariste avait toujours ses meilleures idées au milieu de la nuit et ne parvenait pas à s'en souvenir. Je cite cette citation racontée par Hitchcock. Une nuit, il se réveille avec une idée formidable, il l'écrit et se rendort très content. Le matin, il prend le papier et lit « Un homme rencontre une femme ». Cette citation, elle fait sourire d'abord, bien sûr, quand on ouvre le livre, mais quand on avance dans la lecture de l'histoire ensuite, elle résonne un peu à nos oreilles. Est-ce qu'à l'origine de ce roman, pour vous, au creux du désir de l'écrire, il y avait cette idée-là, repartons de l'essence des récits, et peut-être particulièrement des récits du cinéma hollywoodien classique, Boy Meets Girl, un homme rencontre une femme.
Exactement. Il y avait vraiment ça, c'était un projet... Effectivement, de repartir à la situation la plus simple et la plus évidente. Et aussi, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, moi je suis éditeur, et c'est vrai qu'on reçoit énormément de manuscrits avec des gros sujets, quoi. Vraiment des gros sujets, qu'ils soient sociaux ou même dans la, dans la façon de construire les livres. Alors, tous les livres sont très compliqués. Il y a une voix qui intervient. Enfin bon, il y a de gros sujets. Et c'est vrai que peut-être un peu presque comme parfois on fait un dry January, je me suis dit, je vais prendre l'histoire. J'avais vraiment envie de raconter l'histoire la plus simple qui soit, quoi. Voilà, une rencontre.
Je vous propose qu'on écoute tout de suite un premier extrait de votre roman. Il est lu par Jeanne Aléos. Je dis souvent que j'ai vu ce film une dizaine de fois. Mais avec les années, cette formule toute faite doit être bien en dessous de la réalité. Ce n'est même pas l'une de ces œuvres fétiches découvertes à l'adolescence et qui accompagnent toute une vie. Non. Ma première séance date de 2004. J'approchais des 30 ans. Ce jour-là, mon alibi ophtalmologique n'aurait pas dupé grand monde. Heureusement, j'étais seule. Une fois dans la rue, les yeux encore humides, j'ai su sans le moindre doute que je venais de voir une perfection. Le plus beau des plus beaux films du monde, comme l'a écrit un critique à propos d'une autre œuvre, mais je ne vais pas me gêner pour lui voler sa formule et rétablir la vérité. Ai-je compris pour autant que ces plans et ces dialogues ne me quitteraient plus jamais ? Je ne crois pas. Pas immédiatement. Au fil des visionnages, chaque recoin de cette histoire m'est devenu familier. Un homme et une femme se rencontrent lors d'une traversée en paquebot. Chacun doit se marier à l'arrivée. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et décident de se donner rendez-vous 6 mois plus tard, le 1er juillet à 17h, au 102e étage de l'Empire State Building. Ainsi, ils auront pris le temps de s'interroger sur leurs sentiments, de rompre s'il le fallait, et de trouver du travail. Ils dépendent chacun à leur façon de leur futur conjoint. Le jour des retrouvailles, sur le toit du gratte-ciel, la femme se fait renverser par une voiture dans la rue. L'homme n'en saura rien et attendra là-haut jusqu'à la nuit tombée, avant de se rendre à ce qu'il croit être l'évidence. Elle n'est pas venue. Elle n'a trouvé ni l'élan, ni le courage nécessaire. Peu importe, elle n'est pas venue. Chacun vivra avec ce souvenir du rendez-vous manqué. Une douleur qui ne se mesure pas par son intensité, plutôt par sa persistance. Elle est toujours là. Elle stagne sous les différentes couches du quotidien. Invisible. Une nappe phréatique polluée par le chagrin. Il y aura des retrouvailles, heureuses, mais voilées par ces mois de doute, de tristesse et de manque. Heureuses, mais... ce serait la meilleure définition du film. Mélo, mais... comédie, mais... romantique, mais... ce mets universel qui parvient toujours à se glisser entre les rouages.
On est dans la toute première partie du livre, Jean-Pierre Montal. C'est ici Pierre qui parle en première personne, l'un des deux protagonistes principaux de ce roman. Et il commence par nous parler de sa passion pour ce film, Elle et lui, qu'il résume ici pour nous. Ça permet à ceux qui n'ont pas vu le film d'en comprendre en gros la trame schématique. Ce film, il infuse absolument toute la première partie de cette histoire. Il flotte comme ça sur la rencontre amoureuse entre Pierre et Florence. La progression même de leur histoire semble suivre quelque chose comme la progression de l'histoire des deux protagonistes du film, même si l'issue est différente, même si leur histoire est singulière, bien sûr. Est-ce que ce film, il est au point de départ de l'envie d'écrire ce roman ? Est-ce qu'il a infusé aussi, pour vous, sur sa forme même ?
Oui, je pense. Alors, il n'est pas totalement au point de départ. Au début, je voulais, comme je vous le disais, raconter une rencontre. Je n'avais pas forcément dans l'idée de faire un parallèle avec le film. Mais quelque chose m'a toujours intéressé, c'est le comment on peut parler d'œuvres qui nous suivent toute une vie. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on vieillit avec les œuvres, on les lit plus de la même façon. À une époque, pour une édition du livre de poche de la Chartreuse de Parme, Gallimard avait demandé à Paul Morand de faire une préface et il avait fait la préface là-dessus en disant, je vais le relire. Tiens, je l'ai lu à 15 ans, je l'ai lu à 25 ans, je l'ai lu à 30. Bon, je vais le relire. Et il disait, il essayait de décrire cette façon dont les œuvres vieillissent avec nous. Et alors, je voulais pouvoir un moment parler d'une œuvre qui va presque être le miroir, et parfois le miroir déformant, parce que peut-être qu'ils idéalisent aussi leur histoire parce qu'ils pensent à ce film. C'est une possibilité. Et en tout cas, c'est une œuvre qui s'incruste comme ça dans la vie. On en a tous, je ne sais pas, une dizaine en tête, qui se sont incrustés totalement dans des moments de notre vie et puis qui ressurgissent régulièrement. Donc ça, c'était vraiment une envie d'écrire sur ce sentiment.
Oui, par ailleurs, on peut penser qu'effectivement, ils se rencontrent vraiment la première fois à une projection du film. On peut penser que leur amour même est teinté de leur amour pour ce film. Ça, c'est une idée très belle autour de qu'est-ce que c'est que le désir, la circulation du désir, la manière dont ça rebondit.
Complètement. S'ils s'étaient rencontrés à un dîner ou en faisant leurs courses, peut-être que la sauce n'aurait pas pris de cette façon. Là, il se trouve qu'ils sortent d'une grande histoire d'amour, sans doute à des meilleur film jamais fait sur le sentiment amoureux et sur l'impossibilité du sentiment amoureux, ça vous met dans une certaine tournure d'esprit, disons.
Dans ce passage-là, Pierre, il parle de ce film en disant « mélo, mais, comédie, mais, romantique, mais ». Ce « mais-là », est-ce que c'est quelque chose après quoi, que vous avez cherché en écrivant ce livre ? Parce que le livre, il me semble qu'il circule aussi dans un « mais », dans un entre-deux, entre quelque chose de l'ordre d'une gravité, du sentiment amoureux, de cette sensation d'avoir raté quelque chose ou de toujours déjà passer à côté de quelque chose. Et en même temps aussi, une légèreté, une joie qu'il y a notamment dans leur histoire à tous les deux, dans le premier temps du moins, une légèreté notamment de la conversation, de leurs échanges, de la rencontre amoureuse, tout simplement.
Oui, ce mais, c'est quasiment c'est ce qui pourrait définir le ton du livre, on va dire, l'écriture du livre. Mais moi, c'est ce que je trouve fantastique dans Elle et lui, c'est-à-dire que vous pouvez pas le ranger vraiment quelque part, mais c'est cette façon de d'effleurer les différents registres qui, à mon avis, fait les grandes œuvres. Bon, alors après, il y a des grandes œuvres qui appartiennent à un genre, hein, c'est une évidence. Mais même si vous regardez, par exemple, des grands films comiques, je trouve que il y a toujours un moment de mélancolie dans les grands films comiques. Les grandes œuvres, elles arrivent toujours à montrer l'envers de leur propre face. Et donc, moi, j'ai essayé d'aller vers ça. D'ailleurs, particulièrement, il y avait quand même quelque chose d'absolument fantastique dans le cinéma hollywoodien, de la grande époque hollywoodienne, c'était cette capacité à montrer les choses dans leur subtilité, et tout en étant incroyablement efficace, puisque c'était des films qui s'adressaient à un large public. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. D'ailleurs, ça pourrait répondre un peu à ce qu'est un film romanesque, je trouve. Parce que le roman doit jamais être monolithique, il doit jamais montrer qu'une seule... Il n'y a rien de pire, on le sait tous, que le roman militant ou le roman à thèse. Donc le mais, c'est l'anti-roman à thèse, quoi.
Alors, partant de cette histoire entre Pierre et Florence qui est présentée dans cette première partie du livre, votre roman y suit ensuite une construction assez vertigineuse et assez virtuose. Parce que d'abord, de ce récit en première personne, nous allons basculer à un récit en troisième personne. Tout d'un coup, le deuxième chapitre, qui s'appelle « Voix off remake », nous parle de Pierre tout d'un coup à la troisième personne, alors que jusque-là, on l'avait découvert à travers un jeu, J.E. Et puis, dans ce chapitre-là, Pierre va tomber par hasard sur un livre dont il comprend qu'il est en fait un livre qu'a écrit Florence des années plus tôt, et dans lequel elle raconte une histoire d'amour qu'elle a eue elle-même des années avant, dans les années 70, à Vienne, avec un homme qui était plus âgé, de même qu'elle est plus âgée que Pierre. Et Pierre va donc lire ce livre qui est la partie centrale, et je crois le chapitre le plus long de votre roman, avant que, à la fin du livre, on en revienne à ce récit en troisième personne, mais dans un style qui, il me semble, être à nouveau un peu différent. Bref, ma question est la suivante. Comment vous en arrivez à cette structure-là de récits enchâssés, mais non seulement de récits enchâssés, mais de récits de registres de paroles très différents, Jean-Pierre Montal?
Oui, c'est presque ce que je préfère faire. Donc, en fait, pour vous répondre un peu plus intelligemment que ça, c'est moi, je trouve que le style commence avec la construction. Je me méfie beaucoup des auteurs. Parfois, on me recommande des auteurs. Des amis me disent, tu devrais lire X ou Y. Il écrit très bien. Bon, il écrit très bien, mais ça me laisse toujours un peu. Je sais pas. Je suis toujours un peu en équilibre entre Parce que les gens qui écrivent très bien, bon, ça existe, hein, évidemment, il y a de très grands stylistes, mais ça peut être aussi une façon d'habiller le vide, et puis ça peut être aussi un métier, une maîtrise, vous voyez, on peut avoir beaucoup de métiers et bien écrire, parce qu'on maîtrise bien son affaire. Alors que je trouve que la construction, elle vous impose des limites. Moi, j'avais décidé que ce serait un perpétuel jeu de miroir, ce livre. D'ailleurs, vous le résumez hyper bien, et c'est un livre qui est difficile à résumer, je veux dire, puisque tout se répond en permanence.
Juste pour détailler un petit peu, hein, les jeux de miroir, parce que je l'ai résumé rapidement, mais il y a le jeu de miroir entre l'histoire de Pierre et Florence, puis l'histoire de Florence et Egon, donc voilà. Cet homme qu'elle a aimé à Vienne des années passées, mais ça continue après. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment un jeu de miroir à l'infini, un peu comme quand on met deux miroirs l'un en face de
Exactement.
L'autre, et que ça fait cette espèce d'enfilade.
Exactement, c'était créer cette espèce d'enfilade, parce qu'au fond... c'est un peu comme à la fin du Temps retrouvé de Proust, vous savez, quand il lit, il voit arriver les gens et ils lui font l'impression d'être des géants parce que ils voient le temps et tout ce qu'ils ont vécu. Et comme s'ils marchaient sur de grandes échasses parce qu'ils ont vécu énormément de choses. Là, mon idée, beaucoup plus modestement, évidemment, c'était de faire un peu ces reflets incessants parce que finalement, quand on rencontre quelqu'un, surtout, je tenais beaucoup à cette différence d'âge. C'est-à-dire que c'est pas un livre, il y a une différence d'âge qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais c'est pas une différence d'âge où l'un des personnages a une fascination pour la jeunesse. Il y en a un qui a 48 ans, l'autre 74 ans. Voilà, c'est pas « Ah, je vais retrouver mes 20 ans ». Il n'y a pas cette fascination-là. C'est des gens qui ont vécu tous les deux. Comme ils ont vécu, ils ont beaucoup de choses et en eux. Mm. Et quand vous rencontrez quelqu'un à ces âges-là, vous n'allez pas faire le résumé de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut, par petites touches, découvrir la personne et voir ce qu'elle a pu comprendre, même dans ce qu'elle dit, repérer un mot. Et donc, c'est un peu ce qu'elle essaye de faire le roman. C'est-à-dire qu'eux, sans se parler, on connaît un peu toute leur vie, toute leur profondeur, quoi.
On parlait tout à l'heure de votre goût pour certains écrivains américains. Je vous propose qu'on écoute une archive de l'écrivain James Salter. Il était interrogé sur France Inter en 2014 et parlait justement notamment de cette question de la construction des livres. On l'écoute.
There are beautiful tinkly bells.
Il y a des petites clochettes merveilleuses.
There are deep cathedral bells.
Il y a des glas de cathédrale.
Bells of mourning.
Il y a des glas, effectivement,
bells
de deuil.
Of marriage.
Des cloches pour le mariage.
So,
et donc,
a book needn't be just polished tones
un livre, ça ne doit pas être simplement des phrases polies et qui sonnent comme des cloches.
Every good
Chaque
book, really
bon
good
livre,
book,
vraiment très bon livre,
invents its own form,
invente sa propre forme
and is written in its own language,
est écrit dans sa propre langue.
A language that didn't
C'est-à-dire
exist before.
Une langue qui n'existait pas auparavant.
So that really determines
C'est ça
what the book
qui détermine
will be.
Ce que sera un livre.
Will it stay in memory or will
Est-ce que
its
ça
impression
restera dans les mémoires, dans
be
les
more
sentiments
orchestral, be more like music.
Ou, allez, est-ce que ça sera comme de la musique
or will it be more didactic? Will
Ou est-ce que ça sera
more
didactique
narrative in it, the narrative being the important
Ou est-ce que
thing.
C'est le récit qui sera la chose la plus importante
the language not really
et que la langue ne sera pas tellement importante, ce sera
Dreiser,
comme ça.
For instance.
James Salter sur France Inter en 2014, il me semble que ça, traduit par Michel Zlotowski, il me semble que ça rebondit avec ce que vous disiez juste avant, Jean-Pierre Mental. Est-ce que vous l'entendez dans la continuité de ce que vous nous disiez, ce qu'il dit là ?
Ah oui, totalement. Enfin là, ce qu'il vient de dire, je trouve que c'est d'une justesse absolue. Et je dirais même qu'il faut, oui, il faut marier la petite cloche et la cloche de cathédrale. Il faut essayer que tout ça résonne presque dans le même livre. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une anecdote personnelle. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai essayé d'écrire sur les livres et quelqu'un de très sympathique à l'époque, qui avait un journal qui s'appelait Écrivain Magazine, Christine Ferniaud, m'avait confié de chroniques, et ensuite j'étais allé au Salon du Livre et je m'étais dit, bon allez, je vais faire une interview, tant pis, personne, j'ai cherché, et je suis tombé sur James Salter. Et c'était dans les années 90. Et il était tranquillement installé, il y avait un creux à son stand, et il a été très gentil avec moi, il m'a écouté, puis il m'a répondu, il a répondu à mes questions qui étaient assez banales, et à la fin, c'est pour ça que je dis ça, parce que ça recoupe avec notre début d'émission, il m'a dit, sinon, si jamais vous voulez écrire, il faut lire Hadji Mourad de Tolstoï, et là, tout est dedans. Voilà,
bon. C'est un bon conseil.
C'est un conseil.
Dans le jeu de miroir dont on parlait, il y a le fait que, je disais, cette deuxième partie, c'est donc le livre de Florence, un livre qu'elle a écrit et dans lequel est racontée son histoire d'amour avec Egon. Et au cœur même de ce livre, il y a des longs passages où Egon lui-même raconte son récit en première personne, un peu comme si c'était la transcription des moments que Florence a passé avec lui, à l'écouter raconter son histoire. Il y a un effet de vertige ou d'emboîtement dans le fait même que quand nous lisons ce texte, nous, lecteurs de votre roman à vous, Jean-Pierre Montal, on le lit dans le regard de Pierre, si je puis dire. C'est-à-dire, puisqu'on le découvre à travers le fait que Pierre tombe sur ce livre, l'ouvre, cut, on plonge dans le livre, il y a une espèce de double lecture pour nous. C'est-à-dire, on le lit comme si, voilà, on était face à ce livre, mais en même temps, on est face à lui à travers le regard de Pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé là-dedans ?
Complètement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ouvre ce livre en étant presque conditionné quelque part, en se disant « ça n'est pas rien ». Parce qu'en gros, ils viennent de rompre, ça c'est quelque chose que tout le monde, je pense, peut imaginer, ils viennent de rompre et sur une table de librairie, ils trouvent un livre écrit par la femme qu'il aime et avec laquelle il vient de rompre. Donc, nous, on rentre dans le livre comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va apprendre là-dedans? Au mieux, enfin, c'est ce qu'on se dit. En fait, il apprendra des tonnes de choses, rien sur leur histoire. C'est pas un livre de témoignage, mais il faut pour que la construction générale du roman tienne, il faut qu'on se dise, ah, mais c'est Pierre qui lit, presque plus que c'est nous qui lisons.
Et ce qui est très beau, c'est qu'on est un peu dans un regard amoureux en lisant, c'est-à-dire puisqu'on a compris qu'il se jouait entre eux une histoire d'amour, en lisant cette histoire, on a en nous, lecteurs, le regard du Pierre amoureux déjà de Florence.
Exactement, et j'espère, parce que je ne sais pas si le coup est réussi, mais j'espère que parfois, en lisant quelque chose dans le livre de Florence, on se dit « aïe ». Le pauvre, il va lire ça, ça va quand même lui faire mal, ou au contraire, ça va lui rappeler quelque chose.
Ou au contraire, ça va nourrir son amour.
Exactement. Et donc ça, c'était vraiment pour que cette partie ne vienne pas se coller, si vous voulez. C'était pas uniquement l'idée d'accumuler trois cubes. Il faut que ces cubes se répondent. Et là, entre ces deux-là, ils se répondent comme ça. Voilà.
On va écouter un extrait de cette partie centrale du livre. Nous sommes donc dans ce livre de Florence, au cours duquel elle raconte cet épisode de sa vie, ces quelques mois passés à Vienne dans les années 70.
Le bus peinait dans la côte. Peu à peu, tout ce qui faisait la personnalité de Vienne s'effaçait pour laisser place à ces immeubles banals, présents dans les périphéries de toutes les capitales d'Europe. Les passagers restaient silencieux, absorbés par ce paysage sans caractère. Nous descendîmes tous à l'arrêt situé devant l'entrée de l'hôpital psychiatrique. Il fallait passer par la porte de l'établissement pour gravir ensuite ses jardins. Quelques blouses blanches traversaient avec détermination ce décor calme, à peine troublé par la marche ralentie des familles venues visiter des patients. Ces derniers se reconnaissaient au bas de pyjama dépassant de leur manteau. L'église Saint-Léopold finit par surgir au-dessus des arbres. Un bloc blanc surmonté d'un dôme doré, éblouissant sous le soleil du matin. Je pensais au Sacré-Cœur, à Paris, bien que les deux architectures n'aient pas grand-chose en commun. Mais ce blanc, cette côte et un vague air de famille byzantin. Le bâtiment d'Otto Wagner n'avait rien de religieux au prime abord. Il aurait pu s'agir d'un musée. Sa coupole d'or évoqua le pavillon de la Sécession et le blanc de sa façade, une de ces villas art déco que l'on trouvait dans les proches banlieues de la ville. Rien de sacré en tout cas. L'intérieur, à la clarté parfois aveuglante selon les heures de la journée, venait confirmer cette impression. Une église sans pénombre, sans recueillement possible. Une église d'architecte, une idée d'église, Je m'assis sur l'une des chaises qui évoquait plus la salle du conseil d'administration d'une grande entreprise que la messe du dimanche. Les luminaires, eux, tombaient en grappes dorées du plafond et n'auraient choqué personne dans le hall d'un grand hôtel. Saint-Léopold était à l'image de la Vienne du début du siècle. Elle se voulait absolument moderne et cette obsession lui faisait perdre de vue l'essentiel de sa mission.
Cet extrait de votre livre, Jean-Pierre Montal, pour tirer plusieurs fils. D'abord, tout simplement, qu'est-ce qui vous conduit à entraîner vos personnages ou à nous faire découvrir le passé de l'une de vos personnages principales, Florence, non pas dans le décor qui était celui de la première partie du roman, Paris et même le quartier latin, mais dans la Vienne et dans la Vienne des années 70.
Alors, il y a deux raisons à ça. C'est, d'abord, c'est que je voulais une, comme on parle d'une autre période, et comme on vient de se le dire, il y avait plusieurs jeux de miroir. On est en 70 et je voulais un lieu qui ait une histoire encore plus loin que 70. Je voulais qu'on projette, voilà, qu'on se projette en 70, mais dans une ville qui a un passé glorieux. Il y aurait eu d'autres choix, mais enfin, Vienne, ça se pose un peu là en matière de ville prestigieuse. Et donc, je trouvais
ville prestigieuse et ville dans laquelle le prestige est visible, quoi.
Est visible et, oui, est visible et, maintenant, je sais pas quand les gens, je sais pas l'impression. En tout cas, moi, la dernière fois que je suis allé à Vienne, l'impression que j'ai eue, c'était aussi que ce prestige, cette fantastique ébullition qu'il y a pu avoir dans cette ville est visible, mais enfin n'est plus là. Mmh. C'est quand même quelque chose aussi qui est très marquant, quoi. C'est comme si l'histoire avait un petit peu déserté les lieux pour nous laisser uniquement le décor de l'histoire.
Oui, absolument.
Donc, je voulais que Florence arrive en 60, dans les années 70-74, elle arrive à Vienne, et donc elle arrive déjà dans une ville qui n'est plus ce qu'elle était. En revanche, comme elle rencontre un homme plus âgé, alors ça c'est une de mes grandes fascinations dans la vie, c'est-à-dire les gens qui, dans vos rencontres, vos amis, les gens qui parlent les différences d'âge, si vous imaginez, tiens, il avait 20 ans à telle période, ça vous amène à des périodes, vous vous retrouvez en trois coups au 19e siècle. Il y a des, enfin, j'exagère à peine, mais...
Non, c'est
mais,
vrai.
Voilà. Ouais, ouais. Et ça, je trouve ça complètement fascinant. Là, dans le roman que je suis en train d'écrire, il y a un personnage qui à un moment réalise qu'il est en train de parler avec quelqu'un qui a été contemporain de Proust par les années. Alors, bien sûr, ils n'avaient pas le même âge, mais ils réalisent ça. Alors ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, je voulais que Florence, en arrivant en 74, elle interview cet intellectuel, Egon Dartmann, et Egon Dartmann a une différence d'âge importante avec elle. Donc, Egon Dartmann, il peut totalement la renvoyer à la Vienne en ébullition, la Vienne historique, et bien sûr, la Vienne de la guerre, quoi, et ce qu'il a dû faire, lui, pendant la guerre.
La Vienne de l'ébullition de l'avant-guerre, et on peut même remonter jusqu'à la Vienne de Freud, la Vienne de Joseph Roth, la Vienne de...
Oui.
Voilà.
Et c'était donc l'autre raison, c'est que j'ai une passion pour certains écrivains viennois, et particulièrement Joseph Roth. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a la forme courte du livre, le livre est court. Je voulais m'inscrire, c'est d'une, l'histoire, je la voyais bien comme ça, qui pouvait se construire de façon très courte. Et en plus, j'aimais beaucoup l'idée que ce soit très construit et très court, qu'il se passe beaucoup de choses en peu de temps, mais aussi parce que Joseph Roth ou Arthur Schnitzer, c'était quand même des maîtres de la forme courte.
C'est-à-dire que cette structure en jeu de miroir et en perspective infinie à travers différents miroirs qu'on décrivait tout à l'heure, elle se joue aussi au sein de chaque personnage et dans la rencontre entre eux. Et en l'occurrence, dans cette partie-là du livre, on découvre l'histoire de cet Egon Dartmann et... celle de sa femme, dont les parents, sa femme à lui, hein, Friedel, elle s'appelle, dont les parents ont été déportés, ce sont de juifs viennois. Et lui, en 1940, pendant la guerre, il se retrouve en Angleterre, interné dans ce camp qui s'est trouvé sur l'île de Man, avec une histoire très spécifique que moi je connaissais pas du coup, que je découvre à travers votre roman, de réfugiés, notamment juifs, mais pas que, en Angleterre, qui se retrouvent internés dans un camp. Le fait que cette histoire soit racontée dans la voix d'Egon Dartmann au cœur de votre roman crée vraiment pour nous une espèce de sensation de vertige parce qu'on est pris complètement dans son récit et lui alors qu'on était parti de très loin, si je puis dire. Comment cette histoire spécifique-là, elle est arrivée pour vous dans le roman ?
C'est très curieux parce qu'en fait, je m'intéressais beaucoup au camp de Chinsun, donc le camp de l'île de Man. L'idée, c'est que le gouvernement anglais, à un moment, a vu arriver plein de réfugiés d'Europe, donc qui venaient en Angleterre et qui venaient d'Italie, d'Allemagne et d'Europe centrale. Donc évidemment pour fuir le nazisme et le fascisme. Mais enfin, le gouvernement anglais s'est dit, mais peut-être qu'au milieu de tous ces réfugiés, il y a des espions, des activistes. Enfin, on peut pas, voilà. Alors, c'était, et donc ils ont créé cette espèce de camp. Le camp est devenu assez célèbre parce que il y avait énormément d'intellectuels dans ce camp et qui ont organisé une vie intellectuelle. Et tout de suite, il y a eu un journal, il y a eu des représentations théâtrales. Alors cette histoire m'avait longtemps intrigué, mais ce qui m'intéressait dans le fait que Egon se retrouve là, c'est, et à un moment Egon a une réplique là-dessus, une phrase, c'est-à-dire que est-ce que la vie, comme ça, la vie culturelle, intellectuelle, la vie de l'esprit, c'est vraiment un rempart contre tout? C'est-à-dire que là, ils se sont réorganisés dans ce camp, ils ont recréé Vienne, si on pourrait le dire comme ça, ils ont recréé une petite Vienne pour... Mais lui-même dit, on a été naïfs, quoi, parce qu'on a cru que la culture, la civilisation nous protégerait de tout, puis ce qui est arrivé, c'est l'extrême barbarie. Donc, c'est cette tension que je voulais montrer, lui a cru à ça, quoi. Il a cru qu'en gros, la civilisation, la grande culture, c'était le propre de l'homme et sauverait l'homme. Et au fond, il y a eu basculement dans tout l'inverse. Quoi. Et on voit bien que Egon est fracassé par ça. C'est une pensée qui a changé toute sa vie. Et d'ailleurs, c'est un type assez grave, enfin plombé par ce qu'il a vécu et par ces réflexions-là. Et je pense que le camp, c'est un peu le moment où il le dit, à un moment il dit « j'ai même un peu honte d'avoir été là-bas ».
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une mélancolie dans ce ratage permanent. Hein, votre roman nous raconte plusieurs ratages, plusieurs destins qui se croisent, des vraies histoires d'amour, mais qui sont pas épanouies, un peu à la manière du film de Léo Macaré, même malgré le fait qu'il se retrouve. Il y a une mélancolie qui reste du début à la fin. Cette mélancolie amoureuse, pour le dire vite, c'est comme si elle rencontrait un autre effet d'écho, un autre effet de miroir, avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une mélancolie historique et politique, je ne sais pas exactement comment le dire, mais et qui aurait à voir très profondément avec l'histoire du XXe siècle et avec où nous en sommes par rapport à cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous dire, déplier un peu cette idée-là?
Oui, enfin c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a la mélancolie personnelle de l'histoire qui marche ou ne marche pas ou qui n'aboutit pas, l'histoire inachevée, et puis il y a quelque chose qui est que ces gens ont vécu pas mal de choses et en gros... vous transmettez un peu ce que vous avez vécu, ce que l'histoire vous a fait vivre. Et les époques, quand vous parlez avec quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, il y a un étrange décalage qui peut être passionnant, hein, je dis pas que c'est pas... Mais il y a quelque chose, même pour faire passer vos idées, vous parlez avec quelqu'un de plus jeune, vous dites, oui alors à cette époque il y avait, vous essayez de recréer un contexte, d'essayer de faire comprendre, mais ça passe quasiment pas par les mots. En revanche... quand vous l'avez vécu, il y a quelque chose qui est en vous. Et alors particulièrement, je trouve, les grandes époques dramatiques, de guerre, de conflits, c'est très très dur de les communiquer. Alors, il y a des témoignages, il y a des films, il y a plein de choses. Mais si vous voulez les communiquer avec des gens avec lesquels vous discutez, Egon, il s'efforce de le faire. Mais ça lui est quasiment impossible. Mais il pense qu'il doit le faire pour faire comprendre à cette femme plus jeune que lui... il va pas vivre cette histoire d'amour comme elle va le vivre. Et c'est pas uniquement la différence d'âge. C'est que cette différence d'âge, c'est une différence de... Ils ont vécu des choses tellement radicalement différentes qu'il ne sait pas s'il sera capable de vivre cette histoire d'amour.
Du point de vue de l'écriture même, des formes même d'écriture que vous adoptez, de quelle manière est-ce que peut-être le fait de basculer d'une première personne à une troisième personne, puis à une autre troisième personne dans le roman de Florence et ainsi de suite, qu'est-ce que ça vous permet de raconter, Jean-Pierre Montagne ?
Moi, j'adore ça. Alors, je me l'explique assez difficilement. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a une amie qui m'a dit « Arrête avec ça. Arrête, garde une personne et ça. » Mais Moi, je veux pas parce que j'ai l'impression que c'est... En tout cas, moi, j'adore ça en tant que lecteur. C'est-à-dire que j'adore démarrer dans la tête de quelqu'un, puis à un moment, repasser à la troisième personne et le narrateur omniscient. J'ai l'impression que c'est comme si la caméra s'était élevée, vous savez, dans ces steadicams-là. Elle s'élevait au-dessus de l'histoire.
Oui, quand la steadicam part d'un point et monte, et nous fait aller jusque dans le ciel. Quoi.
Exactement. Et si en plus, avec ce mouvement de caméra, vous ajoutez une voix off, ben alors là, vous multipliez les points de vue. Et pour moi, il y a quand même quelque chose dans l'essence même du roman, parce que je mets le roman vraiment... Au-dessus de tout, je sais qu'aujourd'hui, la non-fiction, il y a plein de gens, les livres hybrides. Bon, moi, je mets la forme romanesque au-dessus de tout.
On aura compris que vous êtes un fervent passionné de la forme roman, y compris dans le sens classique.
Et donc, elle
permet
ça. Ouais. Elle permet ça. Elle permet la multiplicité des points de vue. Et d'ailleurs, elle permet d'être plus réelle en permettant ça. Elle permet plus de vérité. Moi, je pense que si c'est pas inventé, c'est que c'est faux. C'est-à-dire que si en gros, si quelqu'un vous dit « oui, mais alors ça c'est vrai, puis j'ai fait une longue enquête et tout ça », mais moi j'imagine tout de suite le type qui a découvert pendant son enquête tout ce qui allait le brider pour raconter la vérité intérieure. Il va devoir s'en tenir au fait, donc il va s'arranger pour que l'histoire soit passionnante, donc il va mentir. Si c'est pas inventé, c'est que c'est faux, à la fin.
On entend en vous écoutant à quel point, on a l'impression en tout cas que quelque chose de l'ordre d'une syntaxe ou d'un langage cinématographique imprègne l'écriture. On a en effet, en vous lisant, parfois la sensation comme ça d'avoir devant nous des images de films. Dans le passage qui a été lu par Jeanne Aléos à l'instant, on avait comme ça par exemple un travelling. Mais à plein d'autres moments, notamment dans la rencontre entre Pierre et Florence dans la première partie du récit, on voit les plans. Je pense à la manière dont vous jouez sur le motif de la nuque de Florence. Pierre la voit de loin dans une salle de restaurant et c'est sur sa nuque que se cristallise quelque chose comme son sentiment amoureux. Est-ce que c'est juste de dire qu'il y a quelque chose dans votre écriture qui serait cinématographique ou est-ce que c'est un peu trop vite dit ?
J'en sais rien réellement, mais je sais qu'il y a quelque chose de vrai. Et tout à l'heure, je vous avais dit, quand j'ai vu un film, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faudrait raconter une histoire. Alors peut-être qu'en voyant Annie Hall, alors peut-être que c'est comme ça que ça a irrigué. Mais sinon, il y a cette phrase, que je suis d'accord avec cette phrase le mardi, en désaccord le mercredi, puis de nouveau d'accord le jeudi. C'est la phrase de Stendhal qui dit, ce sont les autres arts, tous les autres arts qui m'ont appris à écrire. Je pense qu'on attrape quelque chose dans les autres formes.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Comme chaque jeudi à 7h, nous prenons des nouvelles du livre hors de nos frontières grâce à la rédaction internationale de Radio France. Et aujourd'hui, on se rend tout au nord de l'Inde, dans le territoire du Cachemire, avec vous, Com Bastin, qui êtes le correspondant de Radio France en Asie du Sud. Et vous êtes avec nous en direct depuis l'Inde. Bonjour Com.
Bonjour Mathilde.
Comme vous avez choisi de nous présenter le premier livre de Mehak Jamal, qui était jusqu'alors réalisatrice de films, ça tombe bien, on parlait beaucoup de films aujourd'hui. Ce livre s'appelle « Laoul Cachemire », il a paru en Inde en janvier dernier chez HarperCollins. Et c'est un recueil de nouvelles qui a été remarqué, qui nous plonge dans l'histoire et le quotidien du Cachemire, état en proie à des insurrections et à la répression politique et militaire depuis des décennies. Mais plutôt que de traiter de la violence, l'autrice a choisi d'en parler à travers l'amour.
Oui, c'est vraiment la question, en fait. Comment continuer à parler d'être humain lorsque l'actualité se résume à des grèves, des manifestations, des arrestations, des morts ? Et cette question, Mehak Jamal se la pose dès son enfance, alors que la situation au Cachemire l'empêche d'aller à l'école, de voir ses amis lors de journées longues et ennuyeuses passées à la maison au fil des grèves et couvre-feu. Alors, pour situer le Cachemire, c'est le seul État à majorité musulmane du pays. Il se trouve dans l'Himalaya. Il a rejoint l'Union indienne en 1949. Avec la promesse d'une certaine autonomie, mais les relations avec le pouvoir central indien se sont vite détériorées, en même temps que la frontière contestée avec le Pakistan voisin a donné lieu à des infiltrations, des guerres, des accrochages, des attaques terroristes. Bref, Mehak Jamal a grandi dans les années 90, une période d'exaction et de violence où les mouvements indépendantistes et islamistes proches du Pakistan faisait face à l'armée indienne.
Et c'est à partir de 2020 qu'elle a commencé l'écriture de ce livre.
Oui, l'écriture est en fait la collection, puisqu'il s'agit donc d'une série d'histoires vraies, sentimentales, que les habitants du Cachemire lui ont confiées. Et l'amour, c'est ce que signifie le mot LOL dans le titre du livre. C'est vraiment le fil que Mehak Jamal choisit pour explorer la mémoire des hommes et des femmes de ce territoire tourmenté à travers 16 récits. Je ne peux pas parler de tous, mais on y lit comment Javed, un jeune homme, échappe au contrôle antiterroriste musclé de l'armée dans un village parce qu'il a une lettre amoureuse sur lui et que ça provoque l'empathie des soldats et qu'il garde depuis toujours cette lettre porte-bonheur. On lit aussi sur Sagar, qui est lui un pandi, ces hautes castes hindous qui ont fui les persécutions islamistes dans les années 90. Sa famille choisit de revenir au Cachemire. Il tombe amoureux d'une étudiante musulmane, mais leur idylle adolescente va durer des années, mais se heurter aux profondes divisions religieuses et rester platonique. Et puis enfin, Laila, qui est une Cachemirie, donc du Cachemire, qui tombe amoureuse de Mahdi, qui est lui un Palestinien à l'université près de New Delhi. Et Laila, qui parvient à surmonter les réticences de sa famille, qui voulait qu'elle épouse un local, et finit par s'installer à Gaza. Et au final, elle va y retrouver la violence. Ils ont tout perdu après la riposte israélienne aux attaques du Hamas en 2023.
Ce sont des histoires d'amour qui nous projettent donc, si je comprends bien, dans l'actualité de l'Inde.
Oui, tout à fait, même si elles peuvent se passer à des moments différents. On se plonge aussi dans l'abrogation de l'autonomie du Cachemire qui a été décidée en 2019 par le Premier ministre Narendra Modi. Cette mesure, elle a supprimé le statut d'État, le Parlement du Cachemire, et elle s'est accompagnée d'un verrouillage des communications, de nombreuses arrestations et certainement autant d'histoires d'amour. Le Cachemire, en fait, c'est une périphérie de l'Inde, mais qui raconte beaucoup du pays tout entier. Les tendances autoritaires du gouvernement central, les tensions religieuses qui ne se sont pas arrangées avec le régime nationaliste hindou de Narendra Modi, les tensions frontalières avec les pays voisins. Mais vraiment, la grâce de Mehak Jamal, c'est, qui est elle-même d'ailleurs fille d'un couple mixte musulman et hindou, c'est de toujours nous parler de l'humanité et du désir qui subsiste au milieu de ces rancunes et vicissitudes de l'histoire.
On espère voir paraître une traduction de ce livre bientôt en français. Un grand merci, Com Bastin, d'avoir été avec nous en direct depuis l'Inde. Toutes les références à retrouver sur le site de la chronique Lecture sans frontières, sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France. Et comme chaque jour en fin d'émission, nous jouons à trouver de la musique dans un livre grâce à vos suggestions. Si au détour d'une lecture, vous voyez citer un passage, un morceau de musique, faites-nous la photo de ce passage et envoyez-la nous via le compte Instagram du Book Club ou via le mail leBookClub@radiofrance.com. Comme. Grâce à Farah, nous allons aujourd'hui rester dans un univers cinéphile pour nous quitter, car la chanson qu'on va entendre a été composée pour un film de François Truffaut. On parlait de lui au début de cette émission, un film sorti en 1979, dernier opus mettant en scène Antoine Doinel. Je suis à deux doigts de vous poser la question quiz Jean-Pierre Montal, mais je ne le ferai pas. Cette chanson, elle est citée dans le roman de David Fuenquinos, qui a paru en 2009 chez Gallimard et qui s'appelle La délicatesse. Une fois rentrée, elle composa son numéro de téléphone, mais raccrocha avant la sonnerie. Elle aurait voulu qu'il l'appelle. Après tout, c'était elle qui avait pris l'initiative de cette deuxième soirée. Il aurait pu au moins la remercier, envoyer un message. Elle était là, attendant devant son téléphone, et c'était la première fois depuis si longtemps qu'elle vivait cela, l'attente. Elle ne pouvait pas dormir, elle se servit un peu de vin. Et mit de la musique, Alain Souchon. Une chanson qu'elle aimait écouter avec François. Elle n'en revenait pas d'être capable de l'entendre comme ça, sans s'effondrer. Elle continuait à tourner dans son salon, à danser un peu même, à laisser l'ivresse entrer en elle avec l'énergie d'une promesse. Première partie de L'amour en fuite, chanson d'Alain Souchon, écoutée par Nathalie après sa deuxième soirée avec Marcus. Caresse photographiée sur ma peau sensible, on peut tout jeter les instants, les photos, c'est libre. Il y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. Transparent, pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche. On a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait. Un très grand merci Jean-Pierre Montal d'avoir été avec nous pour parler de ce livre, La Face Nord. Il a paru aux éditions Séguier. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Olvec, au son Valentin Bobinet. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement Jeanne Aléos aujourd'hui. Cette émission se réécoute sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France, où vous pouvez aussi retrouver tous ces épisodes en podcast.